Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir, les grands points de l'actualité. République démocratique du Congo, troisième journée de violence à Kinshasa et dans l'est du pays, Washington se dit préoccupé.
Au Burundi, un directeur de presse arrêté par le pouvoir, le directeur de la radio publique africaine, est accusé de complot d'assassinat.
Ce qui nous manque, la défense, c'est de savoir le motif de l'arrestation. Nous ne savons pas si c'est pour faire taire la radio publique africaine.
On écoutera l'un des avocats de Bob Rugurika.
Au Niger, des radios et télévisions protestent contre les violences policières.
Ici aux États-Unis, réaction mitigée au Congrès après le discours du président Barack Obama sur l'état de l'Union.
Et on aura les dernières infos sur la CAN 2015 ainsi que la page économie, mais d'abord le journal. En République démocratique du Congo, les violences ont continué pour la troisième journée consécutive à Kinshasa et Goma dans l'est du pays. On fait le point avec Eddy Issango.
À Kinshasa, les affrontements ont repris entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les étudiants de l'université de Kinshasa scandaient « Kabila dégage ». La police est intervenue de manière musclée. Dans les quartiers d'Njili, un poste mobile de police a été détruit par des jeunes en colère contre le général Célestin Kanyama, chef de la police. À Goma, grande ville de l'Est, les forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène des étudiants qui avaient dressé une barricade. Selon les autorités, il y a eu 15 morts après 3 jours de violence. Mais la Fédération internationale des droits de l'homme fait état d'au moins 42 victimes. Monseigneur Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, a condamné les projets de révision de la loi électorale susceptibles de permettre au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Il a appelé le gouvernement à cesser de tuer son peuple.
Les États-Unis se disent profondément préoccupés par la violence en République démocratique du Congo depuis l'adoption par l'Assemblée nationale d'une nouvelle loi électorale actuellement en examen au Sénat. Nous appelons toutes les forces de sécurité congolaises ainsi que les membres de la société civile et de l'opposition à faire preuve de retenue et à s'abstenir d'actes de violence, a déclaré dans un communiqué la porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki.
Au Burundi, Bob Rugurika, directeur de notre station partenaire, la radio publique africaine, est écroué depuis hier à Bujumbura en rapport avec le meurtre de 3 religieuses italiennes en 2014. Parmi les 3 chefs d'accusation retenus contre lui, ceux de complicité d'assassinat et de manquement à la solidarité nationale. La radio dirigée par Bob Rugurika a diffusé un entretien avec une personne ayant avoué avoir pris part au meurtre. Selon ses avocats, la radio a révélé le nom du suspect et l'endroit où il a été interrogé. Timothée Donangmaï a joint à Bujumbura un de ses avocats, Maître Bosco Ngenga Kugayo.
Le nom, il est connu. Il a précisé même l'endroit où ils se sont rencontrés. Mais le problème, ils veulent amener à faire comprendre au public et à la défense qu'au bout de l'enquête qu'ils ont menée, ils avaient l'obligation de s'activer autour du dossier qui avait été ouvert au parquet de la République à mairie de Bujumbura. Et qui était même inconnu de la part de la direction de la radio publique africaine. Ce qui nous manque, la défense, c'est de savoir le motif de l'arrestation. Nous ne savons pas si c'est pour faire taire la radio publique africaine au sujet de son meurtre, somme toute crapuleux, et qui aujourd'hui semble passer aux yeux de l'opinion comme un crime d'État. Mais sinon, aucune charge, aucune preuve n'a été administrée au sujet des infractions retenues à la charge de nos clients, le directeur de la radio publique africaine.
Maître Bosco Ngenda Kugayo, joint à Bujumbura.
Un homme se présentant comme le chef de Boko Haram a revendiqué l'attaque meurtrière perpétrée à Baga, dans le nord du Nigeria. L'armée camerounaise, de son côté, affirme avoir libéré un otage allemand enlevé par le groupe islamiste nigérian, Jacques Aristide.
Un communiqué de la présidence camerounaise indique que la libération de Nietzsche Robert a été rendue possible grâce à une opération conjointe menée mardi soir par l'armée du Cameroun et ses alliés. L'Allemand avait été kidnappé en juillet l'an dernier par Boko Haram dans l'état nigérian d'Adamawa. Le gouvernement allemand a confirmé l'information, ajoutant que son ressortissant avait été transporté à Yaoundé. Cette libération survient au lendemain d'une vidéo mise en ligne par le groupe terroriste dans laquelle un homme se disant être Aboubakar Shekau a revendiqué l'attaque de Baga. Cette localité dans l'état de Borno, dans le nord du Nigeria, et une quinzaine de villages aux alentours avaient été le théâtre en début d'année d'un raid considéré comme étant le plus meurtrier jamais commis par les islamistes de Boko Haram. Certains responsables locaux avaient fait état de 2000 morts, mais l'armée l'a établi à 150. Dans la vidéo, le présumé chef de Boko Haram affirme que des attaques pires que celles de Baga seront menées, menaçant les pays voisins et leurs dirigeants, Paul Biya du Cameroun, Mahamadou Issoufou du Niger et Idriss Déby du Tchad.
Guinée, l'auteur présumé d'une attaque à la grenade hier dans un bar de Conakry est détenu à Matam, a indiqué le porte-parole de la gendarmerie guinéenne, Mamadou Alpha Barry. La gendarmerie fait état d'un mort et de 5 blessés. Mohamed Lamine Camara, ancien volontaire de l'armée, était apparemment en état d'ébriété avancée au moment des faits, a dit à la Voix de l'Amérique Boubacar Diallo, reporter à Africa Guinée.
Selon des sources sécuritaires contactées par notre rédaction, le présumé auteur de cette attaque à grenade s'appelle Mohamed Lamine Camara, dénommé l'Islam. Le monsieur serait un ancien volontaire de l'armée qui était en service dans la région forestière du pays et qui était dans un état d'ébriété total. Alors hier, dans ce maquis, il y aurait eu une dispute avec un autre monsieur à cause d'un téléphone. C'est ainsi qu'il a fait éclater la grenade qui a tué une personne et a occasionné 5 blessés qui sont en ce moment alités à l'hôpital d'Onka. Quand il a été arrêté, il était blessé au niveau de la main et il y avait un de ses pieds qui était complètement bandé. D'après les premiers examens, il y avait un taux élevé de l'alcool dans son sang. Et donc la gendarmerie annonce qu'elle va attendre jusqu'à ce qu'il retrouve toutes ses capacités mentales et physiques pour pouvoir pousser les enquêtes et savoir effectivement quels sont les motifs de son acte.
Boubacar Diallo, reporter à Africa Guinée, était joint à Conakry.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Réaction mitigée au Congrès américain après le discours annuel sur l'état de l'Union. Le programme économique du président Barack Obama a été bien reçu par les démocrates, mais son approche sur les questions internationales, les négociations avec l'Iran par exemple, suscite des critiques tant chez l'opposition que dans son propre parti. Michel Joseph nous en dit plus.
Ce n'est pas une surprise. La plupart des propositions faites hier soir par le président Obama, notamment son appel à relever le taux d'impôt des Américains super riches pour financer des allègements fiscaux en faveur de la classe moyenne, seront à coup sûr rejetées par les républicains. Cory Gardner, récemment élu au Sénat, affirme que la situation n'a fait qu'empirer durant les 6 ans de l'administration Obama. Il nous faut tout faire, dit-il, pour ne pas augmenter les impôts des familles qui font tant d'efforts et des Américains créateurs d'emplois. Au plan international, le président Obama rejette toute nouvelle sanction contre l'Iran, arguant que cela entraînerait l'échec des négociations en cours, une position critiquée non seulement par les républicains, mais aussi des démocrates, comme le député Elliot Engel. Il dit qu'à son avis, les sanctions ont contraint l'Iran à négocier et plus de sanctions peuvent l'amener à faire preuve davantage de bonne foi dans les négociations. Plusieurs démocrates et la plupart des républicains semblent aussi adopter une position différente de celle du président sur la lutte contre le terrorisme mondial. Simplement dit, ils pensent qu'il n'est pas assez agressif face aux islamistes radicaux. Avec une majorité républicaine dans les deux chambres, les propositions faites dans ce discours risquent de rester lettre morte.
Au Yémen, les affrontements entre miliciens chiites et soldats du gouvernement ont fait au moins 35 morts et 94 blessés, indique l'AFP. Les combattants d'Ansar Roulin ont renforcé leur contrôle sur la capitale Sanaa un jour après avoir donné l'assaut au palais présidentiel. Le président Abderrabo Mansour a dit serait en sécurité dans sa résidence encerclée par les rebelles.
Un Palestinien a blessé au couteau au moins 11 personnes à Tel Aviv, dont plusieurs grièvement, annonce la police israélienne. L'attaque a commencé dans un bus. Le Palestinien de 23 ans qui réside en Cisjordanie a été atteint d'une balle à la jambe avant d'être capturé.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et place maintenant au journal de la Cannes avec Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la Cannes sur VOA Afrique, le Burkina Faso toujours à la peine. Olé, 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 olé. Deuxième journée dans le groupe A ce mercredi. Le Burkina Faso et la Guinée équatoriale partagent les points à Bata. Ce résultat n'arrange pas les vice-champions d'Afrique qui se sont inclinés lors du premier match face au Gabon. Dominateurs dans le jeu et dans les occasions, les Burkinabés pêchent dans le dernier geste et n'arrivent pas à concrétiser malgré deux tirs sur le poteau. Score final 0-0. À 19h, le second match de la journée, le Gabon qui peut déjà se qualifier s'il l'emporte face au Congo. C'est le coup de sifflet ce soir de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. La deuxième journée des matchs de groupe commence avec les rencontres de la poule A où un autre derby de la CEMAC va enflammer la sous-région pour un des sommets attendus d'eux entre le Gabon et le Congo. Déjà, le premier derby en match d'ouverture a vu le petit poucet équato-guinéen contraindre au nul les poulains de l'emblématique entraîneur Claude Leroy. Le vieux sorcier blanc sait qu'il faut désormais tenter le tout pour le tout. Contre une équipe gabonaise que la première journée est une victoire face aux vice-champions d'Afrique en titre, mais dans les dispositions idéales. Les Gabonais affectionnent garder le ballon et attendent patiemment de trouver la faille en contre pour placer les stockades. Le Congo, qui se doit de gagner, est face à un dilemme tactique. Faut-il libérer les joueurs en leur laissant prendre le plaisir de jouer? Ou alors faut-il privilégier l'aspect tactique et calculateur? L'enjeu risque de tuer le jeu, sauf si une des équipes venait à marquer tôt. À demain.
En bref, Gervinho a présenté ses excuses sur Twitter. Lors du match Côte d'Ivoire-Guinée, l'attaquant avait été exclu pour une gifle adressée à un joueur guinéen. « Je tiens à présenter toutes mes excuses à la nation ivoirienne, à mes coéquipiers, aux supporters, pour ce geste de colère qui ne me ressemble pas et qui n'a évidemment pas sa place sur un terrain de football. » Le joueur de l'AS Rome qui risque plusieurs matchs de suspension. Je vous rappelle que dans le groupe D, toutes les équipes sont à égalité puisque la Côte d'Ivoire et la Guinée ont fait match nul un partout. Même score entre le Cameroun et le Mali. Demain, retour à la compétition des équipes du groupe B. Tenue en échec par le Cap-Vert un partout lors du premier match, la Tunisie doit se ressaisir jeudi contre la Zambie. Écoutons Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie.
On veut gagner ce match, mais comme on voudrait faire le premier match aussi, ce sont des matchs qui dépendent du temps, parfois à gauche ou à droite, parfois la chance, vous avez été quelques occasions, nous autres on a un but annulé, un penalty contre nous, mais ça c'est la vie, tu dois accepter. Maintenant le Zambie, on sait la force de Zambie, ils jouent déjà quelques années ensemble, deuxièmement ils ont la vitesse, troisièmement ils sont très malins.
Autre rencontre à suivre, les Léopards de la RDC face aux Requins Bleus du Cap-Vert. Le point sur ce match avec Thierry Kambundi sur place à Ebebeyin.
Face au Cap-Vert, ce jeudi 22 janvier, la République démocratique du Congo veut absolument l'emporter. Dieu merci Mbokani Bezoa et attaquant des Léopards de la RDC.
Ça se passe très bien, probablement. On est ensemble à tous les groupes. On travaille bien. J'espère demain on va gagner.
Sorti au premier tour en 2013 en Afrique du Sud, les Congolais tiennent cette fois à aller le plus loin possible dans cette CAN. Youssouf Moulumbu est le capitaine de l'équipe nationale de la RDC.
On a envie d'aller loin, on a vraiment envie d'aller loin. Aujourd'hui, on a une bonne génération avec les Mbokani, les Joël, Kimwaki, avec des nouveaux comme Bolasie ou Kebanon. On a un effectif complet. Donc aujourd'hui, on se doit d'amener ce pays là où il doit être. Finale, demi-finale, quart de finale. On va se battre jusqu'au bout.
Côté capverdien, le sélectionneur José Rui Aguias s'est beaucoup attardé sur les qualités de l'équipe de la République démocratique du Congo en conférence de presse.
Parce qu'une équipe forte physiquement et techniquement.
Je crois que c'est une équipe très forte physiquement et techniquement.
T'as une créativité dans l'attaque, t'as un pouvoir dans l'attaque.
Ils ont de la créativité dans l'attaque. Notre système pour le match de demain sera le même. Notre façon de jouer sera la même.
Depuis Ebebeyin, Thierry Kambundi Kafuti de Top Congo FM pour VOA Afrique.
C'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition demain matin dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site internet www.voafrique.com.
Nicolas pour les sports. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jean-Roger Bian.
Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Nathalie.
Alors la chute des cours du pétrole pourrait avoir un impact négatif sur les résultats d'Ecobank en 2015.
Ecobank est l'une des banques au plus gros chiffre d'affaires en Afrique, présente dans 36 pays sur le continent. Mais comme vous le savez, les cours du brut ont chuté d'environ 60% depuis le mois de juin et provoqué de grandes difficultés pour les pays africains dont les économies sont largement dépendantes des exportations de l'or noir, notamment le Nigeria, l'Angola et le Ghana, par ailleurs gros clients d'Ecobank. Le directeur général d'Ecobank a donc beau jeu de tirer la sonnette d'alarme. Si les marchés où nous opérons souffrent de certains cas chocs, il y aura des effets d'entraînement sur nos activités, a-t-il confié à l'agence Reuters.
Et des experts actuellement sont réunis à Johannesburg. Ils évaluent les perspectives de développement pour l'Afrique en 2015.
À l'issue de leurs réflexions, ces économies sont formelles. Pratiquement toute la planète bénéficie du continent africain dans son rôle de fournisseur de matières premières. Malheureusement, au moment où de nombreux consommateurs dans le monde entier profitent des bas prix du pétrole, les économies africaines, elles, sont obligées de se pencher sur de nouvelles directions à prendre.
Il y a une corrélation entre la bonne gouvernance et le décollage des entreprises. Sans stabilité, c'est le contraire qui se produit.
C'était l'expert Garrett Newman.
Et le patron d'une entreprise de pétrole française prédit la remontée des cours de l'or noir au Forum économique de Davos qui s'est ouvert aujourd'hui.
Il s'agit de Patrick Pouyanné, il est le président du groupe pétrolier français Total. Il estime que les prix actuellement en bas du pétrole sont, je cite, simplement un bas de cycle et que pour lui, le monde a besoin d'énergie. La grande inconnue est combien de temps va durer ce cycle. Patrick Pouyanné est resté silencieux sur la question.
Merci Jean-Roger Bion pour la Minute Éco. Nathalie Barge et Chérubin Dorsil en votre compagnie pour cette édition du 21 janvier 2015. Les dossiers du jour, nous en parlions dans le journal. La situation reste tendue en RDC. La FIDH dénombre une quarantaine de morts depuis lundi. L'Église catholique fait aussi entendre sa voix. L'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Laurent Monsengwo, a demandé au gouvernement d'arrêter de tuer le peuple en ce troisième jour consécutif des manifestations contre la modification de la loi électorale. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint Colette Breckmann et les journalistes du quotidien belge Le Soir et spécialistes de la RDC.
Il faut se rappeler que Monseigneur Monsengwo avait déjà dirigé la conférence nationale du temps du président Mobutu. Et à ce moment-là, il était l'autorité morale, si vous voulez, même politique, la plus importante du pays au début des années 90. Au moment de la chute du président Mobutu, il avait été pressenti pour diriger au fond une situation intérimaire, mais ça n'avait pas été possible parce que les rebelles de Laurent Désiré Kabila avaient pris le pouvoir. Donc il a toujours été en première ligne et maintenant, dans les circonstances actuelles, la commission épiscopale, donc dirigée par Monseigneur Monsengwo, a été la première à dénoncer d'une façon très très claire le projet de modifier la constitution et la possibilité pour le président de briguer un troisième mandat.
Monseigneur Monsengwo qui demande au pouvoir d'arrêter de tuer le peuple, mais est-ce que cette voix peut être entendue par le régime Kabila ?
C'est très important parce que l'Église catholique représente une autorité morale, elle déborde parfois sur le terrain politique et l'opinion en tout cas est toujours très, très attentive aux prises de position. Est-ce que le pouvoir va se montrer fermé à l'Église catholique, comme il a été fermé à d'autres avertissements qui émanaient même de partis qui faisaient partie de la majorité présidentielle. Ça, on ne sait pas, mais ce serait tout de même une fermeture assez dangereuse.
Certains opposants congolais en rêvent. Est-ce qu'on se dirige vers un scénario à la Burkinabé en RDC ?
Disons que jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas, parce qu'une grande différence au Burkina Faso, l'armée a refusé de tirer sur la population. Ça n'est malheureusement pas le cas en République démocratique du Congo, où les forces de l'ordre ont la gâchette facile et on a déjà maintenant plusieurs dizaines de morts. En plus, le président n'est pas au pouvoir depuis aussi longtemps que l'était Blaise Compaoré et l'opposition n'est pas tellement structurée non plus. Donc c'est plutôt une colère latente, mais si elle devait dégénérer, ce ne serait pas du tout un scénario, disons, ordonné comme au Burkina Faso, ça traduirait par une explosion de colère, des risques de pillage, ce qui est à terme beaucoup plus dangereux.
Et que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale depuis le début de ces événements ?
Oui, quand même, les bailleurs de fonds ont émis des mises en garde, ont refusé de financer le processus électoral en disant qu'il fallait connaître le calendrier complet, qu'il ne fallait pas modifier la Constitution. Il y a eu des mises en garde, mais il n'y a pas eu de prise de position extrêmement nette. Et parfois, on a même l'impression d'une certaine hypocrisie où on a laissé les choses aller en disant, après tout, le président actuel, on le connaît, c'est un moindre mal. Et on a laissé les choses aller sans s'ingérer.
Colette Braeckmann était jointe à Bruxelles.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Niger, une dizaine de radios et télévisions privées ont suspendu hier leurs émissions pendant 5 minutes pour protester contre les violences policières sur les journalistes qui couvraient les manifestations interdites de l'opposition. Déjà ce week-end, une marche contre une caricature de Charlie Hebdo s'était transformée en des émeutes qui ont fait au moins 10 morts, dont 5 vendredi et 5 samedi, à Niamey et à Zender, et l'incendie de 45 églises. Idriss Fall a joint à Niamey notre confrère Bourema Balima, du groupe de presse Bande Serrée.
Écran noir, c'est pour protester contre les attaques dont ont fait l'objet les journalistes sur le lieu de travail, notamment de notre groupe Bande Serrée, où un réalisateur et un journaliste ont été malmenés pendant quelques minutes par les agents de police qui étaient à la poursuite des manifestants de l'opposition qui ont voulu sortir à l'appel du groupement du parti politique qu'on appelle ARDR. Beaucoup d'autres journalistes ont été malmenés également, notamment au niveau du siège du MNS de Nassara, où les leaders des partis politiques se sont réfugiés après l'interdiction de leur marche et suivi de meeting. C'était dimanche.
Apparemment, le Conseil supérieur de la communication semble vous donner raison, parce qu'ils appellent l'État à protéger les journalistes.
Oui, mais nous avons trouvé un peu tardive un peu la réaction du CSC, parce qu'on aurait voulu que cette réaction devrait être prompte depuis le dimanche même, ou le lundi très tôt. Ce n'est qu'après la sortie du bureau de la Maison de la Presse, qui regroupe toutes les organisations professionnelles, que le CSC a fait sortir son communiqué.
La manifestation de l'opposition suivait les violentes manifestations à Niamey contre les dessins de Charlie Hebdo.
Non, parce que l'opposition politique a fait appel à ses militants quelques semaines avant même la publication de Charlie Hebdo. Je vous rappelle que la marche a été officiellement autorisée, mais elle a été annulée en dernière minute, selon le gouverneur, parce qu'il y avait déjà les événements de jeudi et de vendredi et samedi dans plusieurs villes du Niger.
Est-ce qu'aujourd'hui, la situation de la presse s'est améliorée? Parce que l'année dernière, on multipliait les arrestations de journalistes à tour de bras, arrestations et libérations à Niamey.
Je vous rappelle que notre rédacteur en chef, le rédacteur en chef de Radio-Télévision Bande Serrée, a même été interpellé de manière brève à la police judiciaire pour être écouté par rapport à une émission qu'il a animée. Et même ce matin, il a été aussi appelé au niveau de la PJ pour certains détails.
Voilà, Bourema Balima, journaliste au groupe de presse Bande Serrée à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
Le président américain Barack Obama a prononcé hier, devant les deux chambres du Congrès, son discours annuel sur l'état de l'Union. Il a dit en substance qu'avec une économie en croissance et la fin des opérations de combat en Afghanistan, il est temps pour les États-Unis de tourner la page sur une période de crise économique et de guerre. Henri Francisque a recueilli l'analyse de Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'Université Columbia de New York.
C'est un président qui est devenu beaucoup plus politique et qui est beaucoup plus combatif aussi et qui semble annoncer pour les deux dernières années de son second mandat en fait une démarche qui rappelle la démarche qu'il annonçait quand il est devenu pour la première fois candidat. Donc j'ai l'impression que c'est un président beaucoup plus libre et beaucoup plus créatif, qui semble tourner vers ses premiers amours.
Il a présenté toutes sortes de projets, mais il s'adresse à un Congrès qui est contrôlé par l'opposition républicaine dans les deux chambres. Comment arriver à mettre en application ces projets, ces plans?
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas annoncé beaucoup de projets pratiques. Disons, en disant « voilà les objectifs que je me suis fixés ». Ce qu'il dit dans le contexte particulier d'un congrès dominé par les Républicains est que je vais m'évertuer à défendre deux choses qui sont les deux éléments de ce qu'on pourrait appeler l'identité américaine, les valeurs, les principes, les faits, comme il a dit. Je vais aussi m'évertuer à faire en sorte que ce pays se préoccupe de son devenir, se préoccupe de son futur. En quelque sorte, il ramène l'Amérique à une situation qui est à la situation d'avant la lutte contre le terrorisme, d'avant les deux guerres, celle de l'Irak, celle de l'Afghanistan. Donc, cela lui permet dans une certaine mesure de mettre de son côté l'opinion publique américaine parce qu'il est en train de s'installer, si vous voulez, dans une situation dans laquelle les républicains sont majoritaires au Congrès, mais l'opinion américaine est contre, si vous voulez, certains, disons, certaines de ses positions sur le Obamacare, sur le refus d'entrer dans les longues guerres étrangères, mais aussi sur la nécessité de reconstruire dans une certaine mesure l'Amérique, disons, la question relative à l'assurance maladie, tout comme la question relative au service minimum. Donc Obama a une marge de manœuvre, d'une part, parce que les républicains n'ont pas une majorité qui peut leur permettre de remettre en cause, si vous voulez, une opposition présidentielle, mais aussi le fait que le président a la possibilité de mobiliser l'opinion publique.
Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'Université Columbia de New York.
Jacques Aristide avec vous, un Washington Forum en deux temps ce jeudi. Du football avec la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2015, et le discours sur l'état de l'Union du président américain Barack Obama. Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés entre 20h et 21h, temps universel, pour écouter de la bonne musique country avec différents artistes. Notre sujet aussi pour cette semaine, les métiers les plus dangereux. D'après vous, quels sont les métiers les plus dangereux du monde? Et pourquoi? Certaines professions comportent des grands risques, n'est-ce pas? Mais on en parlera ce soir dans RM Show. Nous lirons aussi vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Appelez-nous au 001-202-619-3140. Peace Africa!
Nathalie Barge et Chérubin d'Orsil en direct à Washington, à la une ce soir.
République démocratique du Congo, troisième journée consécutive de violence à Kinshasa et Goma. Selon les autorités, il y a eu 11 morts, dont 2 policiers, mais la FIDH dit qu'il y en a eu au moins 40.
Un homme disant être Shekau, le chef de Boko Haram, a revendiqué l'attaque meurtrière perpétrée à Baga, dans le nord du Nigeria. Et l'armée camerounaise affirme avoir libéré un otage allemand enlevé par le groupe salafiste.
L'auteur présumé d'une attaque à la grenade hier dans un bar à Conakry est en détention. La gendarmerie fait état de mort et de 5 blessés. Mohamed Lamine Camara était en état d'ébriété au moment des faits.
Au moins 35 morts au Yémen suite aux affrontements entre les rebelles chiites et les forces gouvernementales.
Réaction mitigée au Congrès américain après le discours du président Barack Obama sur l'état de l'Union. Démocrates et républicains critiquent sa position sur l'Iran et la lutte contre les djihadistes.
Et les États-Unis et Cuba ont débuté 2 jours de pourparlers à La Havane dans le cadre de leur projet de normalisation. Voilà pour le journal et sachez, chers auditeurs, qu'à Ouagadougou, il y avait un grand soleil aujourd'hui, 31 degrés Celsius, à N'Djamena, 28 degrés et à Bujumbura, il fera ce soir 19 degrés environ. À Washington, actuellement, nous avons 2 degrés Celsius et un petit peu de neige. Et voilà, la mise en onde était assurée par Lionel Gaïma. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Chérubin d'Orsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.